Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Napoléon III et Haussmann alors qu'ils achèvent leur premier projet commun, les Halles Baltar en plein cœur de Paris et le Bois de Boulogne à sa périphérie. Il est temps maintenant pour l'empereur et son préfet de la Seine de s'attaquer au plus gros morceau, Paris. Paris qu'il va falloir détruire pour partie et reconstruire, où il va falloir percer des artères et bâtir des gares. Mais un tel bouleversement n'ira pas sans contestation. Seconde partie, les fabuleux contes d'Haussmann. En 1855, au nom de la ville de Paris, Haussmann lance un emprunt de 60 millions de francs à 3% sur 40 ans. C'est une somme absolument colossale, qui de nos jours se chiffrerait en milliards. On a parlé de 1500 millions de francs pour la totalité des travaux, ce qui va dépasser et de très très loin les 500 millions annoncés par Haussmann. Depuis la mairie de Paris, Haussmann met sur pied une solide organisation dont l'efficacité repose sur le regroupement des services administratifs et des services techniques. Le service municipal comprend deux directions. La voie publique et les promenades, les eaux et les égouts. C'est un partage des compétences entre la surface et le tréfonds. Haussmann constitue sa garde rapprochée dont les représentants les plus éminents sont deux polytechniciens ingénieurs des ponts et chaussées, Eugène Belgrand, qui prendra en charge le service des eaux, tandis qu'Adolphe Alphand sera en charge des jardins et promenades. On le considère comme le père des espaces verts de Paris. Plusieurs commissions sont créées, mais enfin, l'idée générale, c'est que ce soit lui, Haussmann, qui coordonne tout. L'idée force de son projet est la percée, la création de la voie qui se surimpose à l'élément urbain existant.
La percée permet de désenclaver les quartiers trop denses ou trop éloignés et de les mettre en relation directe avec le centre et des équipements comme les gares.
Mais le percement de certaines grandes artères dans Paris répond aussi, Haussmann ne s'en cache pas d'ailleurs, à l'objectif de protéger le pouvoir des émeutes. C'est ce que l'on va appeler dans son dos, un peu ironiquement, les embellissements stratégiques. Il faut placer le pouvoir à l'abri de la rue. Il faut dire qu'en 20 ans, il y a eu dans Paris 9 insurrections. Le coup d'État par lequel Louis-Napoléon est devenu empereur aurait parfaitement pu achopper sur les barricades dressées entre les Halles et les grands boulevards. Il faut empêcher que cela puisse se reproduire. Le percement du boulevard Sébastopol correspond pour Haussmann à l'éventrement du vieux Paris, du quartier des émeutes, des barricades, par une large voie centrale. Quant au couvrement du canal Saint-Martin, voici ce qu'il en dit.
Le boulevard Richard Lenoir que je projetais au-dessus du canal couvert devait substituer aux moyens de défense que le canal offrait aux émeutiers une nouvelle voie d'accès dans le centre habituel de leurs manifestations.
Pour pouvoir procéder à ces travaux faramineux, Haussmann et Napoléon III vont devoir exproprier à tour de bras. Leurs adversaires indignés qualifient Haussmann de préfet éventreur, receleur de la destruction, Attila de l'expropriation. De fait, quelques années avant lui, sous la monarchie de Juillet, a été adoptée une loi qui va lui être très précieuse, la loi du 3 mai 1841, qui permet et réglemente l'expropriation pour cause d'utilité publique. De plus, un senatus consulte pris par Napoléon III, un senatus consulte, c'est une décision juridique prise par le pouvoir qui ne peut être contestée. Eh bien, un senatus consulte instaure une sorte de dictature économique qui permet à Haussmann d'attribuer les crédits nécessaires aux travaux qu'il considère comme d'intérêt public. Voilà qui permet d'avancer très vite. Ainsi donc, alors qu'en 1851, Paris comptait près de 31 000 maisons. Entre 1852 et 1868, 18 000 d'entre elles sont abattues. Plus de la moitié des bâtiments parisiens sont détruits par Haussmann. En 17 ans, ce sont 60% de la surface de Paris qui sont totalement transformées. Dans son livre intitulé « La curée », Émile Zola dénonce ce qu'il considère comme le charcutage de la capitale.
« Regarde là-bas, du côté des Halles, on a coupé Paris en quatre. Tiens, suis un peu ma main. Du boulevard du Temple à la barrière du Trône, une entaille. Puis de ce côté, une autre entaille. De la Madeleine à la plaine Monceau. Et une troisième entaille dans ce sens. Une autre dans celui-ci. Une entaille là. Une entaille plus loin. Des entailles partout. Paris haché à coups de sabre, les veines ouvertes, nourrissant 100 000 terrassiers et maçons. »
On reproche à Haussmann ces destructions irrécupérables, notamment sur l'île de la Cité, devant Notre-Dame, l'amputation du Luxembourg et du parc Monceau. Des quartiers entiers ont disparu. C'est à lui que l'on en veut. Mais sait-on que l'empereur Napoléon Ier lui-même avait déjà envisagé de détruire les maisons occupant l'île de la Cité ?
C'est une vaste ruine bonne à loger les rats de l'ancienne Lutèce.
Voilà ce que disait Napoléon Ier. À ceci près qu'il voulait construire un parc là où Haussmann a construit un hôpital, l'Hôtel Dieu. Aux détracteurs de ces travaux, Haussmann se plaît à rappeler que ceux-ci sont pourvoyeurs d'emplois pour les ouvriers. Ils vont attirer à Paris près de 400 000 travailleurs sans formation, en général des paysans. On ne leur demande que d'être sérieux, travailleurs, avec des bras forts pour manier la pelle ou la pioche. Ils gagnent 4 à 5 francs par jour, la moitié pour une femme, sachant qu'un kilo de pain coûte alors dans les 40 centimes. C'est donc un bon salaire. Haussmann s'inquiète-t-il des accidents du travail ? Pas plus que cela. Ils sont pourtant fréquents, si l'on en juge par les gravures de l'époque, montrant des ouvriers haut perchés, sans protection, sur des murs branlants. On commence à travailler, y compris la nuit, à la lumière des projecteurs électriques qui viennent d'être inventés. Le style haussmannien sort de terre.
La façade est l'élément qui caractérise le plus le style haussmannien. Les immeubles doivent respecter une même hauteur, jamais plus de 6 étages, ainsi que des mêmes lignes principales de façade pour ne former qu'un seul et même ensemble architectural.
Pour prolonger la rue de Rivoli, Haussmann fait raser des centaines de maisons et d'hôtels particuliers. Il fait aussi raser l'église Saint-Jacques de la Boucherie, dont il ne laisse que la tour, et aurait aussi volontiers fait raser Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y renonce, car c'est là que l'on a donné le signal de la Saint-Barthélemy en 1572, et comme protestant, Haussmann ne veut pas qu'on l'accuse d'avoir rasé délibérément ce symbole du martyr protestant. Moins controversé, l'architecte académicien des Beaux-Arts Jacques Ignace Itorf, auteur de la fontaine de la place de la Concorde, est chargé d'aménager l'axe Arc de Triomphe, Bois de Boulogne. Haussmann veut aussi s'emparer à bras-le-corps de la question de l'eau. Paris manque d'eau. Déjà, Jean-Antoine Chaptal, chimiste et surtout ministre de Napoléon Ier, avait en son temps déclaré à l'empereur
« Si vous voulez faire quelque chose de grand et d'utile pour Paris, donnez-lui de l'eau. »
Le canal de l'Ourcq, creusé sous le Premier Empire, est insuffisant pour faire face à une population de plus en plus nombreuse. Paris comptait 1 million d'habitants en 1851, et depuis cette année-là, ce sont 16 à 25 000 habitants qui arrivent chaque année. Dans certains quartiers, il y a 15 000 habitants au kilomètre carré. L'eau coûte cher. Il faut la faire monter dans les étages, donc les gens se lavent peu. Bien souvent, les latrines sont crevées, de sorte que les déchets stercoraires s'écoulent dans les escaliers. Mais le prix de l'eau n'engendre pas que l'insalubrité. Elle encourage les Parisiens, plutôt que de s'offrir une eau pure, à boire l'eau de la Seine. Lors de la dernière épidémie de choléra en 1847, un habitant sur deux est mort dans le cœur insalubre de Paris. Voilà pourquoi, En octobre 1855, Haussmann constitue une commission chargée d'étudier le choléra, son mode de transmission et le moyen d'y remédier. Louis Pasteur, qui est déjà un scientifique reconnu, fait partie de la commission en question. Si Haussmann confie à Belgrand l'immense chantier de l'approvisionnement en eau, c'est parce que celui-ci a déjà travaillé sous ses ordres dans l'Yonne. Il a fourni de l'eau douce à Auxerre. À charge pour lui d'obtenir le même résultat à Paris. De l'eau abondante, pure, arrivant à tous les étages. Il va falloir des années. D'autant que les conseillers municipaux parisiens freinent des quatre fers à chaque nouvelle dépense envisagée. Mais Haussmann ne se décourage pas. Il achète les sources autour de Paris, dont la Duye de l'Aisne et la source de la Seine. Et puis il fait construire les réservoirs de Ménilmontant, de Montsouris, de Passy et des aqueducs. Grâce à quoi, en 1854, une maison sur cinq reçoit l'eau courante, puis une sur deux en 1874. L'approvisionnement en eau de la capitale et son corollaire, le réseau d'égouts pour évacuer les eaux usées, est le chantier dont Haussmann est le plus fier. Il le revendique haut et fort comme son idée à lui. Grâce à lui, le réseau d'égouts passe de 107 à 560 km. Voûtes de pierre, bateaux vannes. Cela devient un must de visiter les égouts. C'en est bien fini. Des chaussées encombrées d'immondices. Victor Hugo ne manque pas d'ironiser sur cette obsession hygiéniste.
Aujourd'hui, l'égout est propre, froid, droit, correct. Il est convenable et grisâtre, tiré au cordeau. On pourrait presque dire à quatre épingles. Il ressemble à un fournisseur devenu conseiller d'État. On y voit presque clair, la fange s'y comporte décemment. L'égout actuel est un bel égout. Le style pur y règne. La rue de Rivoli fait école jusque dans le cloaque. Ce qu'on appelait boyau, on l'appelle galerie. Ce qu'on appelait trou, on l'appelle regard. Le cloaque n'a plus rien de sa férocité primitive.
En 1858, on inaugure en grande pompe le boulevard Sébastopol. C'est sans doute la première fois dans l'histoire que l'inauguration d'une rue est célébrée comme une victoire militaire. Haussmann est le héros du jour, car il a fait ce boulevard, et plus encore, les 32 000 becs de gaz qui éclairent la ville, un Paris en perpétuel chantier qui s'active jour et nuit, c'est lui. C'est lui aussi qui imagine la nouvelle numérotation des arrondissements en coquille d'escargot, lui encore qui fait réaliser la première ligne de tramway entre Sèvres et Vincennes en 1854, lui enfin, qui impose la conduite à droite en 1856. Alors bien sûr, on lui reproche ses dépenses faramineuses. On épingle dans la presse les fabuleux contes d'Haussmann pour parodier l'œuvre bien connue, les contes d'Hoffmann. 2,5 milliards de francs or de travaux en 17 ans pour percer des dizaines d'avenues et de rues et construire des milliers d'immeubles. Il a pourtant innové pour pouvoir alléger le coût des travaux en utilisant la mécanique des dépenses productives. En fait, il a appliqué, quelques décennies avant l'économiste américain Keynes au début du XXe siècle, la théorie de la croissance par la demande, empruntée aujourd'hui pour engager des travaux qui généreront de l'activité économique et donc des revenus fiscaux qui permettront de rembourser demain intérêts et capital. Ainsi donc, Haussmann évite de financer ses travaux par l'impôt, ce qui le rendrait par trop impopulaire et casserait l'effet de relance. Alors qu'il faut au contraire pousser la croissance, adapter la France à la révolution industrielle par une politique de grands travaux publics. Lentement mais sûrement, Paris s'haussmannise. Haussmanniser, c'est embellir, rafraîchir, aérer, mais aussi embourgeoiser. Le Paris de la fin du Second Empire a totalement changé de physionomie, et nombreux sont ceux qui le déplorent. ainsi le photographe Nadar.
Je suis comme le voyageur arrivé d'hier dans une ville étrangère. Je me trouve isolé et nouveau à cette place où tout me connaissait et me faisait famille.
Ou encore Victor Hugo.
Que c'est beau, de Pantin on voit jusqu'à Grenelle. Le vieux Paris n'est plus qu'une rue éternelle qui s'étire élégante et belle comme lit en disant « Rivoli, Rivoli, Rivoli ». L'Empire est un damier enfermé dans sa boîte. Tout hors la conscience y suit la ligne droite.
Haussmann, lui, est au sommet de sa carrière. Par trois fois, Napoléon III lui propose d'entrer au gouvernement. Haussmann décline ses propositions, car l'empereur lui refuse le seul portefeuille auquel il aspire, être ministre de Paris. La guerre de 1870 contre la Prusse entraînera la chute des deux hommes. Napoléon III, vaincu à Sedan, émigre en Angleterre où il meurt le 9 janvier 1873. Durant les 18 ans qui suivent, chaque 9 janvier, Haussmann assiste à la messe anniversaire en hommage à son cher empereur Napoléon III, célébrée en l'église Saint-Augustin, une église qu'il a d'ailleurs fait construire. Mais le 9 janvier 1891, il prend froid en y assistant. Deux jours plus tard, il meurt à son domicile parisien de la rue Boissy-d'Anglas, emporté par une congestion pulmonaire. Le Figaro demande qu'on lui fasse des obsèques nationales, mais la République n'est alors pas encore assez sûre d'elle-même pour honorer comme il se doit le créateur du Paris moderne. Lors de ses obsèques, ni le préfet de la Seine, ni aucun membre du gouvernement ne sont présents. Pas plus d'ailleurs que les Parisiens, qui ne sont guère plus de 300. Les deux artisans du Paris moderne ont quitté la Seine l'un et l'autre sans tambour ni trompette. Napoléon III repose à Farnborough, dans le sud de l'Angleterre, loin de ce Paris qu'il a tant aimé, loin de la France. Plus heureux, son préfet de la Seine, Georges Haussmann, a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Sa tombe se trouve juste à côté de celle d'un autre vrai Parisien, né et mort dans la capitale, le copain de classe avec lequel il allait souvent, pour quelques sous, manger des côtelettes au restaurant chez Flicoteaux, place de la Sorbonne, Alfred de Musset. C'est la fin de ce double épisode consacré au Paris d'Haussmann et de Napoléon III. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook « Au cœur de l'histoire ». Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. « Au cœur de l'histoire » est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend bien entendu sur le site d'Europe 1. À très bientôt.